ma foi, j'y crois. Ma foi, j'y crois.
Ma foi, j'y crois.
Une émission de Benoît Petit.
Aujourd'hui, avec Jean-Marcel Pirillou, vous êtes à la fois mathématicien, vous êtes météorologue et vous avez ouvert un site de philosophe. Alors, je suis content de vous accueillir aujourd'hui pour que nous parlions de cette société multiculturelle, de cette globalisation, de cette mondialisation, mais qui ne vous plaît pas trop parce que vous êtes à la fois la tête dans les nuages et en même temps dans des mathématiques et dans des grandes convictions à la recherche du bonheur.
Bonjour. Oui, effectivement, moi j'ai une formation de scientifique puisque j'ai fait donc une formation en physique des fluides donc maintenant je fais de la recherche en météorologie. Mais c'est vrai que je me suis toujours passionné pour la question de la philosophie et puis pas mal d'années maintenant celle de la spiritualité. Et donc j'ai une formation tout à fait athée. Et pourtant, je me passionne de plus en plus sur la spiritualité. Et donc, du coup, aujourd'hui, je suis très intéressé de venir discuter avec vous de spiritualité, comment, en tant qu'athée, on peut la vivre et la ressentir.
Très bien. Mais pourtant, vous n'avez pas trouvé Dieu dans les nuages, comme on disait du temps de l'Allemagne de l'Est et des matérialistes.
Je ne sais pas qui le trouve. En fait, ce qui est marrant, c'est que lorsqu'on parle de Dieu, finalement, personne ne le trouve réellement. Et beaucoup de gens disent que c'est plus une présence. Donc, en fait, c'est vrai que... Voilà, finalement, si on trouve quelque chose, il y a quelque chose à trouver, c'est vraiment en soi. Et donc, du coup, voilà, c'est pour moi une dimension tout à fait œcuménique que cette question de la recherche de Dieu.
Oui. Pour le spécialiste, l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence.
C'est-à-dire que je préférais l'aborder plutôt, puisque vous parlez de foi, sous l'angle que, pour moi, la foi, fondamentalement, c'est une confiance. C'est une confiance en soi. On va avoir foi en soi, c'est avoir confiance en soi. Et la foi en la vie, c'est une confiance en la vie. Et en fait, pour moi, la foi est tout à fait différente et indépendante de la croyance. Donc là, c'est mon discours d'athée et de scientifique aussi, puisque les athées et les scientifiques ont tendance à définir les croyances négativement, c'est-à-dire comme une idée qu'on tient pour vraie, sans avoir aucune façon véritablement objective de la démontrer. Voilà. Donc aborder comme ça... pour la plupart des scientifiques, c'est la démonstration de la présence qui est à faire. Et sinon, dans le doute, il y a une hypothèse. On peut faire effectivement des hypothèses. Alors, il y a des hypothèses qu'on peut vérifier par une expérience. C'est ce qu'on appelle une hypothèse physique. Et à ce moment-là, on peut faire une expérience pour la vérifier. Et puis, il y a des hypothèses sur lesquelles on ne peut pas les vérifier. Et donc là, c'est des hypothèses métaphysiques. Et donc moi, en tant qu'athée, je rends entièrement hommage aux croyants. Je les respecte entièrement. Mais c'est un choix que je ne fais pas que de croire en Dieu. Parce que si je me mettais à chercher à y croire, arriverait en même temps le doute, puisque je n'aurais aucun moyen de me persuader de sa réalité. Par contre, sur ce que j'ai pu vivre dans ma vie, si vous voulez, c'est l'expérience de la confiance qu'on peut avoir en soi, et l'expérience de la confiance dans les autres, qui naît en grande partie avec l'amour, avec l'accueil, avec l'humilité, avec beaucoup de vertus de ce type. Lorsqu'on a de l'humilité, on est capable d'accueillir l'amour des autres. Et petit à petit, ça fait naître une foi, c'est-à-dire une confiance en les autres. Et le fait qu'à chaque fois qu'on a l'humilité de demander de l'aide ou de l'amour, par exemple, on trouve des gens qui en donnent. Parce que finalement, il y a ça vraiment dans l'humanité. Et que souvent, les gens qui disent qu'ils ne reçoivent jamais d'amour, c'est souvent les gens qui ont beaucoup d'ego et qui n'ont pas véritablement l'humilité de dire qu'ils en ont besoin, par exemple. Vous voyez. Donc pour moi, là où il y a vraiment une prise de foi ou une sorte de révélation en tant qu'athée, c'est le jour où on comprend que si on a suffisamment d'humilité, alors on pourra toujours recevoir de l'amour, par exemple. Et ça, c'est une foi inébranlable.
Ne pas vouloir ou chercher à convertir l'autre, simplement échanger, comme nous le faisons maintenant.
Voilà, tout à fait, échanger. Et l'échange interconvictionnel est toujours intéressant, parce que c'est intéressant pour des athées de discuter avec des religieux, avec des croyants, et inversement.
Et pourtant, les religions n'ont cessé de se faire la guerre. Et peut-être aussi des sociétés sans Dieu ont fait aussi la guerre. Donc si nous cherchons une société qui soit plus juste, une société où il fait bon vivre, alors c'est dans l'échange et dans le partage.
Et je pense que les raisons qui sont derrière la guerre sont la plupart du temps économiques. Et derrière, il y a effectivement une avidité, une grande avidité des gens qui veulent avoir plus ou qui veulent avoir ce qu'a l'autre. Et donc, c'est fondamentalement économique. Et après, effectivement, pour arriver à motiver les gens à se battre, il y a souvent eu un conditionnement qui a été fait, et ça peut être du conditionnement politique ou du conditionnement religieux, et c'est là qu'arrive le dogmatisme en général. C'est-à-dire qu'effectivement, beaucoup de religions ont été quasi directement responsables de conflits, parce qu'elles ont contribué par un discours dogmatique à conditionner les gens dans une idéologie qui a fait qu'après ils ont été dans la capacité de dénigrer l'autre, de vouloir l'éradiquer, etc., etc. Donc c'est vrai qu'il y a une grande difficulté. Mais je pense que très profondément, ça trouve racine en chaque individu dans ce que les catholiques appellent le péché originel, mais que moi en tant qu'athée, je dénommerais simplement une tendance spontanée que nous avons à nous aveugler sur qui nous sommes vraiment, et à nous aveugler sur le fait que la seule, finalement, véritable manière d'être, c'est d'être en vérité. C'est-à-dire, finalement, de dire qui on est, dire ce qu'on aime, dire ce qu'on fait. Quand on a peur, dire qu'on a peur. Quand on a mal, dire qu'on a mal. Quand on se sent puissant, dire qu'on est puissant. Et cette simplicité qui se confond avec la vérité, au sens scientifique du terme, ça rend les gens beaucoup plus détendus, et ils trouvent des joies immenses sans être dans l'avidité. Et l'avidité, c'est souvent le fait de personnes qui sont dans l'ignorance de qui ils sont eux-mêmes et qui, d'une certaine manière, se sont trompés de but en cherchant à devenir toujours plus puissants ou toujours plus riches. Et ces gens-là, malheureusement, sont les premiers motivés à rentrer dans des partis politiques, par exemple, et à faire l'ascension sociale, et un jour se retrouvent à la tête de pays où ils continuent à pratiquer ce que je considère être une erreur sur le sens de la vie, qui est à la source de beaucoup de souffrances inutiles, dont les guerres dont vous parliez, effectivement.
On parle du narcissisme, de la petite différence. Mais il y a aussi quelque chose que vous combattez, je crois, c'est le cosmopolitisme. Cette mondialisation qui fait qu'on risque peut-être, ou on a peur de perdre ce qu'on croit être son identité.
Oui, alors tout à fait. Alors, pour moi, l'identité, il y a un débat qui est difficile actuellement en France et dans beaucoup de pays sur l'identité, parce que pour moi, il y a quasiment que des extrêmes qui opposent d'un côté des gens qui sont identitaires et souvent racistes, à de l'autre côté des gens qui sont cosmopolites, antiracistes, comme s'il n'y avait pas de place pour une identité non raciste. Et en fait, il y a réellement une place pour l'identité non raciste. C'est très clairement expliqué. Par exemple, le philosophe Arne Naess définit l'identité comme l'ensemble de nos liens. C'est-à-dire, vous êtes capable, par exemple, telle personne est très attachée à ce sol où elle est née, elle est très attachée à cette maison d'enfance. Elle peut être attachée à des concepts comme la liberté, elle peut être attachée à ses parents, etc. Et donc, lorsqu'on est capable de dire l'ensemble des liens que l'on entretient, alors on est capable de définir son identité. Et cette identité, on la définit de façon absolue, sans aucune nécessité de se comparer à qui que ce soit, sans dénigrement. Et donc, l'identité, c'est bien l'affirmation de soi, on sait bien qu'on en est comme ça et pas autrement, et en même temps, il n'y a aucune notion de comparaison. Et je pense qu'il y aurait place, il y aurait besoin d'agrandir le débat identitaire non raciste, c'est-à-dire non dénigrant, pour bien montrer qu'on peut affirmer clairement son identité, voire refuser ce qui ne vous paraît pas compatible avec votre identité, sans entrer du tout dans une opposition raciste. C'est même la notion, par exemple, en combat, d'esprit chevaleresque. L'esprit chevaleresque, on peut même être amené à se battre contre des personnes, parce qu'il y a un objectif à atteindre, mais on va le faire sans aucun dénigrement, dans le respect, finalement, de la personne que l'on combat.
Ne pas cataloguer l'autre dans une seule dimension de sa personnalité.
Voilà, absolument.
Voir la richesse de tout ce qu'il a dans toutes ses dimensions. Et la poésie, pour vous, est importante, je crois. Vous avez apporté une musique que vous pouvez nous présenter, puis après vous direz pourquoi vous l'avez choisie.
Ah, la présenter, eh bien, écoutez, c'est une musique qui est à la flûte. Pour moi, c'est une musique qui est véritablement, qui exprime à la fois la fragilité et le tragique de la vie, mais qui est aussi une musique de danse. Voilà, donc je vous laisse écouter, je pense que c'est le mieux.
Merci. Thank you.
foi, j'y crois, avec Benoît Petit.
Et aujourd'hui, avec Jean-Marcel Piriou, attaché au CNRS, météorologue. Pourquoi cette musique si douce ?
Ben, si vous voulez, moi je suis très contemplatif et j'aime contempler la nature, les couleurs, etc., le miroitement des gouttes après la pluie, etc. Et je trouve que dans cette musique, ce qui est très fort, et c'est particulièrement fort chez cette interprétation de Jean-Pierre Rampal, c'est la sensibilité. C'est-à-dire que la musique est extrêmement simple, mais tout est dans les nuances que lui y met. Et c'est une musique où presque les silences comptent autant que la musique elle-même. On sent qu'il y a des pauses. Et en fait, ça permet d'ouvrir une nouvelle relation au monde. Parce qu'en fait, en quelque sorte, le côté yang, c'est-à-dire le côté je mène, je combats, je décide, je prévois, tout ça, c'est tout à fait excellent. Et ça ne s'oppose pas avec le yin, qui est finalement la dimension yin de l'être, cette capacité à accueillir, à recevoir, à admirer, à contempler, à se laisser faire. Et en fait, les hommes comme les femmes gagnent à développer ces deux possibilités. Et donc, vraiment, cette musique, pour moi, est une musique de grâce. Voilà, c'est véritablement la grâce qu'on ressent là-dedans.
C'est ce que vous avez écrit dans un petit ouvrage, « Le bonheur ici et maintenant, le lâcher-prise réveille notre spontanéité, réveille notre désir de rire, de jouer, d'exulter.
Oui. »
Vous n'êtes pas matérialiste ?
Certainement, non, on ne pourrait pas dire matérialiste, parce qu'effectivement, en tant que scientifique, j'accorde beaucoup d'importance aux faits, et donc revenir à l'objectivisation des faits, je pense que c'est absolument essentiel. Puis en même temps, je pense qu'il y a eu, pendant des siècles, une opposition entre le matérialisme, d'une part, et le spiritualisme, d'autre part, qui sont, à mon avis, toutes les deux des impasses, et qu'en fait, en quelque sorte, matière et esprit sont consubstantiels, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a bien qu'une seule et même chose, En tant qu'athée, si vous voulez, la définition de l'esprit que je donne dans ce livre, c'est de dire, finalement, en tant qu'athée, on peut définir l'esprit de la façon suivante, comme finalement l'ensemble des processus naturels hein, qui favorisent la vie et qui permettent son expansion et sa diversification. Et quand on donne cette définition, on se rend compte que l'esprit est absolument partout, si vous voulez. Il est dans l'instinct exploratoire du chat, il est dans l'éclosion de cette fleur, il est dans la curiosité, il est, etc. Et en fait, parce que finalement, il y a beaucoup de processus qui concourent finalement à une expansion de la vie et sa diversification.
C'est une sorte de prière ?
Ça atteint, chez moi, ce niveau-là, en ce sens qu'effectivement, ça m'arrive souvent de me répéter, moi, des poèmes, ou de dire des choses, ou d'accueillir, ou de faire des rituels que j'ai créés moi-même, si vous voulez, pour accueillir tout cela. Et je pense que vraiment, l'esprit, on peut le définir, si vous voulez, de façon totalement rationnelle, et il est compatible avec ce qu'on dit les croyants. Parce que, si vous voulez, par exemple, chez les chrétiens, l'esprit, c'est le souffle de Dieu. Littéralement. Et en fait, c'est ce par quoi, finalement, la vie est animée, ce par quoi elle se diversifie, si vous voulez. Et donc, en fait, il est possible de créer une définition de l'esprit qui est compatible avec les croyants, et la seule différence étant, à ce moment-là, l'hypothèse ou non de Dieu, que font bien sûr les croyants, et qui sont bien sûr en droit de faire, et que j'accueille entièrement, mais que je ne fais pas. Et ce que je veux dire, c'est que, du coup, lorsqu'on définit l'éveil ainsi, il est simple de définir la spiritualité comme tout ce qui, finalement, avive l'esprit en nous, ou de définir ce qu'on appelle l'éveil, comme finalement la capacité à ressentir l'esprit en soi. Parce que les gens éveillés, c'est des gens qui ont une capacité simplement, par la méditation ou par la contemplation, à retrouver très profondément en eux la force de la vie, et à sentir cette force étant en eux. Et donc du coup, cette capacité d'éveil, finalement, les connecte à l'esprit en eux. Par exemple, un mot comme l'incarnation, c'est un sens pour moi, à partir du moment où des idées qu'on avait, par exemple quelqu'un vous a parlé, vous a dit des mots sur une certaine chose, et puis un jour dans une certaine situation, alors vous allez véritablement ressentir au plus profond de votre être que cette pensée est vraie, parce que vous l'aurez vécu profondément aussi dans votre ressenti. Et là il se passe pour moi quelque chose qui est de l'ordre de l'incarnation, c'est-à-dire quelque chose qui était simplement de l'ordre du mental, devient aussi un ressenti qu'on vit tous les jours.
C'est pas une sorte d'individualisme qui se complairait dans une seule contemplation du monde. C'est aussi l'écoute et l'accueil de ce que l'autre peut nous apprendre.
Voilà, parce qu'effectivement, il se produit, à mon avis, à travers la contemplation, mais ça se produit aussi dans beaucoup d'autres activités, comme l'amour, comme l'art. C'est qu'on se rend compte que l'être humain n'est pas fermé, c'est-à-dire il est tout le temps ouvert, il respire en permanence, mais il est toujours en relation avec les autres. Et donc on est pour moi dans un monde holistique, dans lequel absolument tout est relié avec tout. Et donc effectivement, comme vous le dites, il ne s'agit surtout pas d'un rempli égotique sur soi, puisqu'en fait on ne peut pas être seul et on n'est jamais seul.
On touche à l'universel et en même temps, on est chacun très particulier. C'est cette tension que comprend peut-être le philosophe du particulier et de l'universel. Alors, une question que je pose habituellement à nos invités, c'est la laïcité pour vous ?
Ah, ben, si vous voulez, moi, dans la laïcité, je vois plusieurs choses. Le côté positif pour moi de la laïcité, c'est vraiment cette idée de séparer les religions de l'État.
Croyance, superstition ?
Non, j'aurais dit plus simplement, c'est une question de force de pouvoir. C'est finalement que le pouvoir de l'État ne spécifie pas quelle doit être la façon d'aborder sa religion. Donc pour moi, c'est ça la laïcité. Et je pense que c'est une bonne chose de ce point de vue-là. Par contre, ce qui est un peu plus difficile et ce qui fait souvent débat sur la laïcité, c'est qu'en réalité, derrière la première couche de surface de la laïcité telle qu'elle s'avance en public, il y a aussi en fait une idéologie qui est un peu gênante. C'est celle de considérer finalement que sur Terre, il n'y a que des individus et au-dessus, il n'y a que l'humanité. Et dans le discours laïque, il n'y a pas place, ou quasiment pas place, pour des peuples ou des ethnies. C'est-à-dire, moi, la difficulté que je ressens dans la laïcité, c'est qu'elle n'est pas holistique, elle est réductionniste. En ce sens, ça ne voit que des individus et l'humanité. Et en fait, pour moi, je vois les sociétés de façon beaucoup plus holistique. Il y a des peuples, il y a des ethnies, il y a des langages, il y a des traditions, il y a des religions, il y a des rites, il y a tout un tas de choses comme ça qui interagissent en permanence. Et vous voyez, la France, par exemple, qui se dit un État laïque, et elle cherche à l'être, a toujours des fêtes officielles d'État qui sont des fêtes religieuses catholiques. Et ça vient, à mon avis, moi je ne vois pas ça comme un problème parce que ça vient d'une histoire. Ça se plonge dans une histoire du peuple français, de l'ethnie française, d'une tradition. Donc je n'y vois aucun problème. Mais ce n'est pas stricto sensus dans la laïcité. Et je pense qu'il y a un problème dans la laïcité parce qu'elle ne prend pas en compte précisément les interactions multiples qui sont celles de l'histoire, qui sont celles des peuples, qui sont, vous voyez, je pense que c'est un peu simple, quoi.
Et la mondialisation entraîne un brassage des cultures, un brassage des convictions et des croyances qui peuvent parfois amener une certaine peur.
Oui.
Mais... Tout à fait. En même temps, nous sommes appelés à vivre ensemble. Alors, la deuxième question que j'aime poser, c'est pour vous, la Bible, le Coran, est-ce qu'il y a la Constitution française, est-ce que ce sont des textes qui ont un sens ? Comment les percevez-vous ?
Ce serait difficile pour moi de porter un jugement comme ça, comment dire, presque en improvisation sur la Bible globalement ou le Coran. Je ne me permettrais pas de faire ça, je n'ai pas la capacité, je pense. Hein. En tant qu'athée, moi j'ai lu des philosophes, beaucoup, et j'ai lu aussi certains maîtres spirituels, qu'on pourrait dire. Par exemple, moi j'ai lu, par exemple dans les évangiles, j'étais vraiment passionné par le discours du Christ, que moi je lis comme un philosophe, c'est-à-dire moi je ne crois pas en Dieu, mais il y a un message sur, par exemple, heureux les simples en esprit, le royaume des appartient, c'est-à-dire montrer que la simplicité et la vérité et la félicité, c'est la même chose. Montrer que, par exemple, c'est la simplicité qui ouvre la porte à l'abondance. Montrer que les doux, par exemple, sont des gens qui vivent les choses les plus fortes sur la Terre. Je veux dire que, pour moi, il y a un message philosophique sensationnel tout un tas de grands sages.
Vous parlez là du rabbin Jésus de Nazareth, mais vous ne considérez pas le Christ comme quelqu'un qui est ressuscité et qui vit aujourd'hui, sinon à travers la transmission du message qu'il aurait donné.
Voilà, c'est ça exactement, puisque moi je suis athée, hein, donc si vous voulez, je n'adhère pas, on va dire, à certains dogmes, mais en même temps, je suis capable d'entendre un message de sagesse qui est vraiment très général et qui est commun, à mon avis, au Christ, à Bouddha, etc., qu'on trouve chez des grands philosophes comme Spinoza, Bergson ou Nietzsche, qui sont des philosophes de la joie, qui enseignent aussi cette question de la simplicité, de l'ouverture, de la douceur, de la capacité à danser et d'être joyeux dans la vie, etc., etc. Donc je pense qu'il y a une universalité. Et je pense que la question vraiment fondamentale, c'est celle de savoir si on intériorise le sens ou on l'extériorise. Si vous extériorisez le sens en obéissant à une loi, en vous contentant d'obéir à un dogme, alors vous êtes dans l'extériorisation du sens et vous êtes d'une certaine manière à côté de la plaque. Ce qui est important, c'est d'intérioriser le sens, c'est-à-dire se faire une idée tout à fait personnelle par sa tête et plus encore par son cœur, c'est-à-dire par son ressenti, que la pensée que l'on a est vraie. Et pour ça, il faut en faire l'expérience, par l'expérience de l'amour, par l'expérience de la joie, par l'expérience de l'entraide, par l'expérience du combat aussi, parce que le combat a un sens à mes yeux.
Les hommes ont besoin de héros ou de personnes admirables ?
Absolument. Notre société s'illustre sur ses héros, ses saints, ses génies.
Mais vous les cherchez autant chez les philosophes. On avait parlé de Spinoza, vous avez évoqué d'autres philosophes. Et en même temps, c'est la personne que je vais rencontrer au coin de la rue avec qui j'accepte d'échanger, de partager.
Oui, tous ont leur rôle, ouais, absolument, oui.
Ben écoutez, on lira avec beaucoup d'intérêt votre livre, Le Bonheur ici et maintenant. C'est aux éditions du Panthéon. Et vous en préparez un autre prochain pour nous dire comment le lâcher prise est aussi une possibilité de vivre heureux.
Bah écoutez, on va essayer, hein, absolument, tout à fait.
Alors, on dit merci aussi à Francky Guéret qui a été aux commandes pour nous enregistrer.
Merci.
Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission, ma foi, j'y crois.